Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know? Born 10 billion years ago, but they don't love me. Now the children upon their lawn will wake up and wonder where I've gone. And the flies that buzz around where I now be, they're all gonna have to get along without me. They'll say,
where's the little dinosaur?
I didn't think
where's
he'd really go.
Bonsoir, vous écoutez les bébés dinosaures, vous écoutez Canal Sud 92.2. Et c'est votre émission de Rock 70s. Qui est un peu intermittente cet été, mais ce soir, je suis là, Toy Boy est en vadrouille. Donc c'est moi le commandant Sylvain qui va tenir la baraque. Et pour une heure et demie de Rock 70s, comme d'habitude.
Yeah, they like you. They will applaud you and everything. Tell that dinosaur to come back. I want him to come back. Yeah, that's right, tell him to come back.
Voilà un bébé dinosaure. Peut-être nous aurons la visite de Luc tout à l'heure, enfin c'est même sûr, a priori. Et oui, il y aura les rubriques habituelles, et puis pas mal de rock assez gras, à vrai dire, mais comme souvent quand même. Hein. Et on démarre d'ailleurs avec un extrait de la compile Ultimate Bonehead, qui était la suite des compiles Bonehead Crunchers. Il y a eu 5 volumes de Bonehead Crunchers, ensuite il y a eu je ne sais plus combien de volumes de Ultimate Bonehead, et puis 2 ou 3 volumes additifs avec des titres un petit peu différents. Et puis je crois que la compile a disparu. Mais c'était avant les compiles Brown Acid dont on nous parle très souvent Tommy Boy, là, qui explore un peu le même terreau, là, c'est-à-dire disons le hard obscur, le proto-punk, le rock bien graisseux des 70s tels que nous on les définit en fait, hein, 69-76, nous c'est 68-76, mais bon, sur le Ultimate Bonehead volume 1, il y a marqué en gros 69-76, avec un sous-titre tout à fait alléchant, A Supreme Gumbo of US Thumping Crunching Heaviness with Lashings of Cro-Magnon Attitude. L'attitude Cro-Magnon. C'est ce qui nous caractérise aussi au bébé dinosaure. Hein. Et on va avoir un bel exemple avec un groupe appelé The Rituals qui ouvre la compilation, qu'on n'a jamais passé, semble-t-il. 2,45 tours, je crois, à l'heure active, c'est un groupe américain. Hein. Alors les Bonehead Crunchers avaient fait des volumes sur l'Europe, sur la Grande-Bretagne, sur l'Australie. Les Ultimate Bonehead, la suite donc, de ces compilations sur le label Belter Records. Ils se consacraient essentiellement aux États-Unis. Et c'est des compiles tirés à 300 exemplaires. Alors, pas évident de les trouver en vinyle. Hein. Et ça date de 2005, 2006, je sais plus. Il faudra que je vérifie sur la pochette. Là. Je vois pas la date. Bon, je vous dis 2000. Ah, c'est plus récent que ça, ouais, 2014. Donc, le Ultimate Bonehead 1, le premier groupe s'appelle The Ritual. Et ils vont vous faire découvrir un club de leur ville, de leur bled paumé là, au fin fond des États-Unis, qui s'appelle Granny Good Box. The Ritual, donc, en 1972.
Hey, aren't you the guy they call Super?
Yeah, babesy, you wanna get it on?
Well, sure, sweetheart. What have you got in mind?
I was thinking about this ritual at Granny's.
Oh, you know? Wow. I've done some really wild things in my life, but never at my grandmother's
place.
No.
Granny's. It's this really out-of-sight place in Muncie, and a group called the Ritual Man, they get it together there.
Oh, wow. Let's get it on.
The Ritual, donc, Granny Good Box, qui était un club de la ville de Muncie, qui était peut-être la ville d'origine de The Ritual, ce groupe assez sauvage qui ouvrait donc le volume 1 des compiles Ultimate Bonehead, 45 tours de 112. Et ben on va repartir sur les territoires des Pink Fairies qu'on avait exploré il y a 15 jours un petit peu, avec des groupes, disons, annexes ou parallèle aux Pink Fairies. Là, on va les retrouver alors tout début, puisque c'est la démo d'un morceau qui figure sur leur premier 45 tours. Le 45 tours est sorti en 71, la démo date de 1970, et c'est un morceau emblématique des Pink Fairies, dont ils feront plusieurs versions. D'ailleurs, on en écoutera une autre version tout à l'heure. Les Pink Fairies, je rappelle, c'est ce groupe né sur les cendres des Deviants, qui est un groupe britannique, donc psychédélique, barré, provocateur, assez furieux. Et trois albums magnifiques, plus un live. Et après, bon, ça a un peu explosé en vol, mais des reformations multiples dans les années 80 et plus tard. Et donc, des tas de disques à découvrir. Mais les trois albums sont indispensables, quand même, à mon avis. Plus le live, qui est sorti un petit peu après. Là on va se retrouver donc au tout début de Pink Fairies, donc le line-up ça va être Paul Rudolph, Duncan Sanderson, Twink, et l'autre batteur, Russell Hunter. J'en oublie peut-être un. Donc Pink Fairies à leur tout début, le morceau donc Do It, dans une version démo, attention, hein, on l'a déjà écouté ce morceau, mais normalement pas encore dans cette version. C'est une version qu'on peut trouver alors sur une compile, mais comme j'ai oublié mes notes, j'ai oublié le titre de la compile. Mais bon, si vous fouinez sur Discogs, vous trouverez. On trouve ce titre qui est quand même une rareté sur une des nombreuses compilations dédiées aux Pink Fairies. Do It donc, la version démo de 1970. Sa version démo et qui sera la phase B du premier 45 tours des Pink Fairies. Et on va retrouver là un groupe qui est un peu descendant des Pink Fairies, c'est les Lightning Raiders dont on avait parlé il y a 15 jours. Ils n'ont pas sorti grand chose de leur vivant, les Lightning Raiders, de 45 tours et puis un EP qui annonçait un album qui n'est jamais paru. Et plus tard, des rééditions. Disons une partie de ces morceaux prévus pour l'album sortiront bien des années plus tard sur une compile avec les deux 45 tours en question. Donc là on va retrouver ce troisième EP, Sweet Revenge, 4 titres sur lequel joue Duncan Sanderson, le bassiste des Pink Fairies, mais c'était le seul membre, disons, qui restait tout le long de la courte carrière des Lightning Raiders, c'était John Hodge, le guitariste. Et je vous avais dit que sur le premier 45 tours, il y avait le guitariste et le batteur des Sex Pistols qui jouaient. Donc Steve Jones et Paul Cook. Mais en fait, j'ai lu qu'ils n'ont jamais vraiment fait partie du groupe. En fait, ils avaient une dette vis-à-vis de Little John, John Hodge, le guitariste, le boss des Lightning Raiders. Je crois qu'il était venu pour enregistrer une piste avec les Sex Pistols. Donc, en contrepartie, disons, il a embauché les deux Sex Pistols pour enregistrer ce premier 45 tours. Et après, en plus, ils sont repartis à leurs affaires. Et il a continué le groupe avec d'autres musiciens, dont Duncan Sanderson, qui est arrivé après. Donc là, on retrouve le line-up avec Duncan Sanderson et George Butler, qui est un gars aussi qui a joué dans des tas de groupes, et notamment dans certaines incarnations des Pink Fairies. Alors là, on est en 81. Et figurez-vous que peu de temps avant, en 78, Duncan Sanderson, John Hodge et Twink ont enregistré un single sous le nom de Twink and the Pink Fairies. Et celui-là, on s'écoutera tout à l'heure. Mais d'abord donc les Lightning Raiders, le EP de 1981 et le morceau Addiction. Et des addictions, ils en avaient plein apparemment. Alors, faut que je le retrouve sur la machine. Les Lightning Raiders, c'est par là.
It's understood. We're all addicted to invaders. We're all addicted to the truth. And I'm addicted to my baby.
C'était donc les Lightning Raiders, un groupe dans la lignée des Pink Fairies avec Duncan Sanderson notamment à la basse, qui est quand même le musicien qui apparaît sur le plus de disques des Pink Furies en gros, quoi. C'est un, leur discographie sous le nez là. Il a été là sur tous les albums jusqu'à celui de la reformation de 87. Après, il a disparu des autres albums qui sont sortis, bon, de manière un peu épisodique. Il y en a eu deux dans les années 90, il y en a eu dans les années 2000, en 2017, en 2018. Il y en a même un qui est sorti en 2023, mais alors là, il n'y a plus que Paul Rudolph dans le line-up. Et sinon, Sanderson, donc le bassiste, est un des membres quand même les plus réguliers des Pink Furies. Il était dans les Lightning Raiders avec John Hodge. Et bon, on va retrouver les deux avec Twink, le membre fondateur un peu de Pink Furies. C'est lui qui avait trouvé le nom. Et le premier line-up des Pink Furies, c'était avec Steve Peregrine Took. On avait parlé un petit peu, c'est devenu Chagrat par la suite. Il devait y avoir Mick Farren à la guitare ou Larry Wallis, je confonds, je sais jamais. Enfin, tous les deux sont liés aussi aux Pink Furies. Bref, Duncan Sanderson raconte que, donc vers début 78, ou fin 77, je ne sais plus, Twink l'appelle un matin en plus. Alors, c'était pas des gars très matinaux. Hein. Et il lui dit, viens vite, là, j'ai besoin de toi au studio, là. On va te jammer un peu. Alors bon, il y va. Il voit arriver dans le studio John Hodge, donc le guitariste. Et ils se mettent à jammer sur un morceau qui s'appelle Do It, le premier 45 tours des Pink Furies. Et puis Twink braille dans le micro, et puis au bout d'un moment il dit « Ah, oh, c'est bon, c'est dans la boîte !» Et là Duncan Sanderson dit « Mais putain, je savais même pas que c'était enregistré !» En fait, Twink avait un contrat avec un label, il fallait qu'il sorte 45 tours, mais les morceaux qu'il avait proposés ne plaisaient pas du tout au label. Et donc il était un peu dans la merde, il fallait qu'il trouve un truc très vite, sinon le contrat lui passait sous le nez. Alors il a convoqué deux potes, et puis à leur insu, il a enregistré un morceau qui sortira en 78, en février je crois, et qui s'appellera Do It 77. Donc une nouvelle version de Do It, le morceau qu'on a écouté en démo tout à l'heure, avec un bon délire au milieu et à la fin, une bonne jam effectivement. Et ça, c'est une des seules choses que les Furies ont sorties dans cette fin des années 70. On les retrouvera en 87 avec l'album de la reformation qui s'appelle Kill 'em and Eat 'em, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Où là, il y a Larry Wallis, il y a Sanderson qui est là, Twink aussi, Russell Hunter, l'autre batteur, puisqu'il y avait deux batteurs dans le Pink Furies des débuts, Twink et Russell Hunter. Et Cole Coon, qui était un mec qui était apparu aussi dans certains line-up live, disons, des Pink Furies. Donc là, on les retrouve en 78 avec une nouvelle version de Do It relativement proche au début et puis qui part en vrille vers la fin. Le Do It 77, les Pink Furies. Enfin, Twink and the Pink Furies. We'll be right back. Do It 77. C'était donc une nouvelle version de ce premier 45 tours des Pink Fairies, enregistré par Twink avec Duncan Sanderson et puis Little John Hodge, en 1978, je crois, enfin, ou fin 77 ou début 78. Le 45 tours est sorti en février, je crois, 78. Et ben, on va rester en 78 avec un petit hommage. Alors, je me suis renseigné auprès de Tommy Boy, voir s'il n'y avait pas une nécrologie à faire, comme souvent. Hein. Et il m'a appris que Greg Keane était mort. En me disant, ouais, bon, tu vois, c'est power pop, c'est pas obligatoire de rendre un petit hommage. Mais quand même, bon, j'ai pas amené le premier album de Greg Keane, je l'ai, le premier Greg Keane Band. C'est pas mal dans mon souvenir, je l'ai pas réécouté. Mais effectivement, c'est power pop, c'est pas trop l'esprit 70s. Mais du coup, je me suis dit, quand même, on va s'écouter. On va faire un petit clin d'œil quand même à Greg Keane en s'écoutant un extrait de la compilation Spitballs. Et Spitballs, c'était en fait l'ensemble des groupes du label Berserkley qui s'étaient réunis, telle une équipe de foot, et c'est comme ça en tout cas qu'ils posent au verso de la pochette. Là, ils sont avec leur maillot, leurs shorts, leurs chaussettes rayées, tous en randonnion. Là, ils sont toute une bande, hein, ils sont, je sais pas, peut-être presque une vingtaine. Donc il y avait différents groupes, il y avait les Earthquake, il y avait les Modern Lovers de Jonathan Richman, il y avait Sean Tyler, les Rubinos aussi je pense, et le Greg Keane Band bien sûr. Alors on va s'écouter un morceau, ils font essentiellement des reprises, enfin je crois qu'il y a un morceau écrit par Earthquake, ou le gars de Earthquake en tout cas. Sinon c'est que des reprises. En 9 notes, j'ai écouté beaucoup d'extraits de cette compile, leur version de Bad Moon Rising par exemple, de John Fogerty. Et alors pour chaque morceau, bah, y a différents chanteurs, hein. Donc on va s'écouter un des deux morceaux chantés par Greg Keane. Il chante deux reprises 60s, si je me souviens bien. Celle qu'on va s'écouter, c'est Life's Too Short. Et alors, j'ai oublié mes notes, mais dans mon souvenir c'était les Lafayette, un groupe vocal, ça doit dater de 62 je crois. La particularité de ce morceau, c'est qu'il a été repris par Dick Rivers en 62. Dick Rivers, il a démarré très tôt, hein. En 62 il a repris, il devait être encore avec les chaussettes noires là. Les chats sauvages pardon, et il l'a repris sous le titre de C'est trop court apparemment. Donc un morceau immortalisé par Dick Rivers, c'est quand même pas rien, hein. Mais chanté là par Greg Keane sur la compile donc Spitballs avec tous ses potes du label Berserkley, et on était en 1978. Life's too short.
Well, life's too short and you're too sweet. Every day of your life, child, you're gonna spend with me. Let me take a bite, Sally. She's a really tough. A girl you know about Emma. She's cute enough. Oh, but life's too short to mess around. So don't you give me no stuff, child. Don't you put me down. I know, no. No, 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 no. I keep telling you, I keep telling you, I keep telling you. I said I told you, baby. Territory, oh, I say, ow, oh, and you're too wild to pass me by, baby, with just a kiss and a smile. We gotta both get married before my head turns gray. Well, I need you for me, baby. I've had my time to play. Come on, come on.
Life Too Short, donc. Hop là, un morceau des Lafayette, repris par Spitballs, c'est-à-dire un mélange de tous les groupes Besserclay, en 1978. Compilation tout à fait recommandable. Et on va écouter un des groupes, tiens, Besserclay. On a rendu hommage à Gwakin, donc qui est mort récemment. On va s'écouter un autre groupe Besserclay, qui apparaît aussi, bien sûr, sur ce disque, Spitballs. C'était le groupe Earthquake. Catalogué hard rock, mais bon, du hard rock assez quand même, comment dire, assez pop quoi, mais avec des très bons morceaux. Et là on va s'écouter un extrait de leur album live de 75, c'était le troisième je crois, où il y a beaucoup de reprises, et parmi ces reprises une reprise de Lou Reed, époque fin du Velvet, là c'est l'album Loaded, le morceau Head Held High, donc un morceau de Lou Reed repris par Earthquake sur le label Besserclay, bien sûr. C'était en 1975.
Soon you'll be 11, get your head high. Oh.
LLI, et c'était donc une reprise du Velvet, époque Loaded, par Earthquake, donc un groupe du label Berserkly. Et à Berserkly, il y avait un trio de producteurs qui étaient quasiment sur tous les disques. Il y avait Matthew King Kaufman, Glenn Kolotkin et Kenny Laguna. Et alors on les retrouve sur tous les disques quasiment, alors des fois les trois ensemble, des fois deux d'entre eux. Mais en fait ils étaient tout le temps là. Et on va s'écouter un autre disque là maintenant, produit par Kenny Laguna, avec comme producteur associé Glenn Kolotkin. On retrouve deux des gars de Berserkly. Parce que Kenny Laguna, après l'aventure Berserkly, il a récupéré une star un peu déchue qui était dans la panade et qui ne savait pas comment relancer sa carrière et qui s'appelait Joan Jett. Après les Runaways, Joan Jett elle a un peu ramé. Kenny Laguna l'a pris sous son aile, alors il était manager, producteur, il a coécrit des morceaux avec elle, c'est elle qui l'a chaperonné complètement, quoi, lui et sa femme. Et bah, ils en ont fait une star mondiale, quoi. Hein. L'album solo de Joan Jett, I Love Rock'n'Roll, c'est beaucoup plus vendu que sans doute tous les albums des Runaways réunis. Hein. Donc il est resté un certain temps avec elle, mais on peut dire qu'il est l'artisan principal, disons, de la résurrection de Joan Jett. Et donc on va s'écouter un extrait de cet album de 1981, si je me souviens bien. I Love Rock'n'Roll, le premier album solo de Joan Jett, Joan Jett and the Blackhearts, donc produit par Kenny Laguna, avec Glenn Kolotkin, mais aussi Richie Cordell, qui lui, on retrouvera, je crois qu'il a travaillé avec les Ramones lui aussi, et des tas d'autres gens. Avec un morceau qu'on a déjà passé, je crois, mais qu'on va repasser, il s'appelle Be Straight, c'est pas le plus connu du disque, évidemment. Mais il a la particularité d'être coécrit par Joan Jett, Kenny Laguna et Greg Keane. Donc deuxième petit hommage à Greg Keane, qui a coécrit deux ou trois morceaux sur ce disque, de ce premier album solo de Joan Jett, avec Kenny Laguna donc, et Joan Jett elle-même. On s'écoute le morceau Be Straight, c'était Joan Jett and the Blackhearts en 1980. Thank you. une fin abrupte qui nous a cloué au mur. Be Straight, John Jett and the Blackhearts. Bon, ils se sont pas trop foulés là, c'est un bon vieux diddly beat. Mais c'est un des bons morceaux avec ce son bien gras. Produit par Kenny Laguna, donc le mentor de John Jett, et Glenn Klotkin. Alors, notre ami Luc nous a rejoint, mais hop, il faut que je lui mette un peu de son dans les casques. Est-ce que c'est bon ?
Je te reçois 5 sur 5.
Ah, voilà. Et donc, tu nous feras la rubrique Digit tout à l'heure, mais aussi tu nous as amené une petite surprise.
Surprise, comme la dernière fois, tu m'as demandé si j'avais des disques des années 70 chez moi. Donc j'ai été à la médiathèque en emprunté un. Les années 70. Et depuis que j'ai découvert ça, là, tardivement, là, Eric Clapton, à sa période du sommet, quand il est avec Blind Faith, quand il est avec Cream, quand il est avec Derek and the Domino, je suis pris dans une tourmente mentale. Et je n'en sors plus.
Ah, je te comprends.
Je n'en sors plus. Et donc, j'ai déjà entendu ça là, au Baby Dinosaur, Derek and the Domino, là, une fois. Et donc, je me suis permis, autorisé, j'ai pris la permission d'apporter un morceau de Derek and the Domino. Alors, pas de leur disque, qu'ils ont sorti un seul disque.
Il y en a qu'un, oui.
Mais... pas abouti d'ailleurs, à mon avis, un double mais pas abouti, avec des morceaux fantastiques, mais un live qui a été retravaillé, digitalisé, là, qui est sorti en 93. Et donc, c'est live au Fillmore. Je serais incapable de te dire si c'est le Fillmore est ou ouest.
Ah, ça doit bien être sud, précisé quelque part.
Sud ou nord du centre.
Fillmore East, in New York City.
New York. Bon, c'est du sérieux.
C'est mon cerveau annexe qui...
Et en octobre 70.
Absolument.
Octobre 70. Voilà pour le millésime. Et c'est un morceau, enfin, ils ont fait de très bons morceaux. Là. Sur cette formation, il n'y a pas John Allman, je ne sais pas, il n'y était pas encore ou il n'y était plus.
Il n'était peut-être pas sur la tournée, ouais.
Il n'était pas sur la tournée. Mais alors qu'ils ont fait un très bon morceau, bon, la reprise de Jimi Hendrix, Little Wing, parce que musicalement, c'est un sommet. Quoi.
Ça apparaît pas sur l'album, hein, le studio.
Il y est.
Je me rappelle plus de ça. Tu vois. Voilà. Derek and the Dominoes, donc Little Wings, live au Fillmore East en octobre 70.
Comment ça en y était ?
Well,
fin tout en douceur. C'était Derek and the Dominoes, donc une version de Little Wing d'Hendrix, live au Fillmoreist en octobre 70. Ah bah tiens, il nous faut notre petit Rolling Stones de la soirée. Alors j'ai profité de l'absence de Tommy Boy pour vous passer Midnight Rambler, parce que c'est un des classiques des Stones qui n'aime pas trop Tommy Boy. Bon, faut dire que c'est un morceau un peu bizarroïde, ce côté, ce long break au milieu là, pour faire monter la tension, où tout s'arrête et puis ça redémarre tout doucement. Là. Un morceau qui faisait durer une éternité sur scène, bien sûr. Mais quand même, faut dire que ça groove méchamment au départ et que ça groove méchamment à la fin. Pour moi, c'est quand même un des grands morceaux des Stones. Et je ne pense pas qu'on ait passé cette version. C'est celle qui a été enregistrée live au Marquee Club en 1972. Donc, les Rolling Stones avec une version live de Midnight Rambler.
Well, I'ma talk about the Midnight Rambler. Yeah.
baby, go down on me, baby.
Trembler, donc la version live au Marquis en 1972, qui est sortie bien après, évidemment, couplée, enfin il y a une version en tout cas qui est couplée au fameux Brussels Affair, le concert de Bruxelles de 73. Donc c'est un triple CD, c'est sous cette forme-là que je l'ai dégoté. Il est temps d'une petite rubrique dans laquelle... les Beatles rendent hommage aux Rolling Stones. Hommage ou peut-être... ou peut-être pas. Merde, c'est pas ce jingle-là. Attendez, je me gourre. Oh putain. Ah voilà, c'est celui-là. Eh oui. Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone. Like the FBI.
me thinking by George he wouldn't fool. And now we'd like to do How'd the Angels Come.
Voilà, la rubrique Dig It, donc, où on rend hommage à l'émission du même nom, animée par Gilda pendant plusieurs décennies, et pour une grande partie sur Canal Sud, et à laquelle ont participé Tommy Boy, Luc et moi. Luc, vers la fin.
Très peu.
Tu étais en soutien de Gilda, quand même, sur les dernières années. Ouais. Et donc, Luc, tu vas nous reparler des Echoids. C'est les Texans, c'est ça ?
Voilà, puisque tu parles de ce soutien psychologique, là, c'est... et pour ceux qui auraient loupé l'émission il y a 15 jours, là, j'avais amené ce disque des Echoids, parce qu'il y a exactement 5 ans, c'était le 15 août, là, Gildas m'avait appelé en me disant que les Echoids étaient dans son studio et allaient se produire, allaient jouer. Et donc il y a encore quelques traces sur Internet, je suis sûr qu'on trouve encore l'émission sur Internet, où les Echoids avaient... était dans ce studio, Jasmine était à ma place et avait joué pendant un quart d'heure en direct.
Ah, il y avait tout le groupe qui jouait, parce que moi, j'étais pas ce soir-là.
Ils étaient dans ce petit studio, 5 ou 6, avec les instruments. Chacun attendait, là, avait l'arme au pied, prêt à attendre le top de Gildas pour enclencher. Il y avait un qui avait son petit clavier, sa guitare. Enfin, et il y avait même le batteur qui tapait sur la chaise.
Oui. C'était la formule acoustique des Echoids.
Souvenir inoubliable. Et donc Gildas, là, les avait déjà vus au jour de fête, je crois, Albi, quelques années auparavant, et m'avait parlé de ce disque des Echoids où il faisait que des reprises de groupes anglais. Un disque que j'ai retrouvé un peu plus tard et donc que j'ai fait bien. Et bon, puisque ce disque t'en plu...
Si tu veux, c'est quand j'ai vu le listing des morceaux repris. Alors, il y a 15 jours, on avait écouté une reprise des Stones. Donc, il y a des morceaux 60s. Hein. Mais il y a aussi pas mal de morceaux 70s, comme Slade, par exemple. C'est Goodbye T-Jane, je crois. Il y a Brian Eno aussi. Et le morceau qu'on va s'écouter ce soir.
Et celui que tu as... judicieusement choisi.
Celui que je t'ai suggéré amicalement.
WizKids. Voilà. WizKids, Motopole. Si tu veux en dire plus, parce que moi j'en sais pas.
Ben, tout à l'heure, on s'écoutera l'original.
Super.
Voilà. Pour toi.
Super.
Et puis, tu es obligé de revenir avec ce disque pour qu'on s'écoute la reprise de Goodbye T-Jane, quand même, de Slade. Et puis celle de Brian Eno aussi, quand même.
Et Brontosaurus.
Et Brontosaurus de The Move. Oh là là, ça t'es obligé de revenir au moins 3 fois de plus dans les semaines qui viennent.
Eh bien, il me tarde.
Et là, on s'écoute donc les Echoids reprenant WizKid de Mötley Crüe.
Motors in a field. Never moved down of Manhattan.
les Echoids, reprenant donc Whisked Modupel. On s'écoutera tout à l'heure l'original, mais d'abord, un petit clin d'œil à mon pote Miguel de l'île d'Oléron, qui est allé récemment voir AC/DC. Ils sont passés à Paris il y a quoi, il y a 2-3 jours, enfin très récemment. Et oui, ils ont récupéré Brian Johnson, la casquette hurlante. Bon. Mais Miguel est comme moi, bon, AC/DC, sans Bon Scott, c'est pas pareil. Mais là, bon, c'était des potes qui lui avaient proposé de venir voir le concert, qui lui avaient offert la place. Alors, il est allé, mais bon, il me racontera comment ça s'est passé. Mais c'est sûr que l'AC/DC, c'était fini à la mort de Bon Scott. En tout cas, c'est ce que les dinosaures pensent. Et donc, on va s'écouter un extrait du dernier album des AC/DC avec Bon Scott, I Wait Well, celui qui a eu le plus de succès. Et un morceau que, bizarrement, le grand ordinateur n'a pas enregistré. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais passé, a priori. Pourtant, c'est un des grands morceaux de ce disque. Mais il faut dire qu'ils sont presque tous énormes, les morceaux de cet album. C'est le morceau Girls Got Rhythm, donc AC/DC, en 1979, l'album I Wait Well.
Still just to make me leave the band. She even had a toy, rent to buy, straight from a Times Square stand. Oh, thank you, little whiz kid. But me and my friends gotta eat. So get back to school, or the typing fool, just get yourself out on the street.
Abrupte. C'était Mojo Pearl, bien sûr. Whiskey, le morceau qu'on a écouté repris tout à l'heure par les Echoids. Et dans une version un peu plus tendue, peut-être. Enfin, nettement, même, je pense. Mais relativement fidèle dans l'esprit. Extrait l'album Mott en 73. Qui est un des grands disques de Mojo Pearl. C'est là qu'il y a All the Way from Memphis, par exemple. Una Lucha Boogie aussi. Le morceau Violence aussi qu'on a. Driving Sister, enfin tous les morceaux qu'on a passés déjà dans les Bédino depuis Belle Lurette. Donc, c'est la dernière ligne droite. On va se faire quand même notre petit morceau au fromage au chef, bien sûr. Le temps pour moi de vous rappeler que les Bébés Dinosaures, c'est tous les dimanches, alors de 21h30 à 23h sur Canal Sud 92.2. Tous les dimanches, pendant les grandes vacances, il y a des petites plages de repos. Donc par exemple la semaine prochaine je pense qu'il n'y aura pas d'émission, mais je devrais y être le week-end suivant, et le 8 septembre Tommy Boy est de retour et on aura même sans doute Misty comme invité. Donc il y aura un nouveau petit break la semaine prochaine, et puis après je pense que on va se remettre aux affaires là, et puis reprendre nos émissions de manière plus régulière. Mais de toute façon vous pouvez, si vous êtes en manque, allez sur le site de Canal Sud, canalsud.net, et vous avez plusieurs centaines d'émissions que vous pouvez écouter en streaming là, ou à télécharger. Et il y en a aussi à peu près le même nombre sur le site Facebook des Bébés Dinosaures. Et voilà, donc ce soir la rubrique fromage de chèvre. Écoutez, je vais d'abord vous passer le jingle, parce que sinon Tommy Boy va me tirer les oreilles. Tu sais qu'il écoute, hein. Attention, il ne faut pas que je dise de conneries. Hein, je te promets, je ne vais pas parler sur le jingle. Je le fais rarement, hein, de toute façon. Voilà. Ah, Luc, on ne va pas interrompre le jingle, hein, quand même. Voilà. On ne va pas couper la chic au sœur Gwedec, on va se prendre un coup de sabot.
Où est-ce qu'on veut c'est du rock-pot, celui du lait de nos produits. Du rock comme on en fait ici, car c'est le fruit de nos efforts. Égolo paysan mène le combat.
Et voilà, les sœurs Gwedec et Los Gonococos, le plus beau jingle de la radio francophone. pour annoncer donc la rubrique folk des Bébés Dino. Alors ce soir, ce sera le retour de Townes Van Zandt. son premier album en 1968. Tans Van Zandt, on en a passé pas mal ces derniers temps. Mais bon, on a raconté un peu sa vie très torturée, quoi. Et puis ses chansons qui souvent étaient quand même très dépressives, quoi. Waiting Around to Die, par exemple, qui est un morceau énorme, enfin, qui fout les poils, mais qui est quand même d'une tristesse abyssale. Mais là, ce soir, on va s'écouter un morceau plutôt rigolo de Tans Van Zandt. Il en faisait de temps en temps. Ça s'appelle Talking Karate Blues. C'est sur son premier album, donc For the Sake of the Song, en 68. Et en gros, l'histoire, c'est un mec qui, voilà, putain, il peut pas sortir de chez lui. Chaque fois, il se fait bastonner par des gros masters qui tombent dessus tout le temps. Alors, il en a marre. Alors, il voit une annonce là pour des cours de karaté. Alors, il se dit, tiens, je vais y aller. Je vous résume. Hein. Et puis, il arrive, là, il y a un gros japonais qui se pointe. Et puis, alors, je sais pas exactement pourquoi. C'est peut-être le prix des cours de karaté qui lui plaisent pas. Enfin, bon, en tout cas, ils s'embrouillent tous les deux. Et puis il s'engueule, mais c'est bon, face au gros japonais, il fait pas trop le malin. À un moment, le japonais lui attrape le bras, et puis Tang Van Zandt dit ah bah oui, là j'ai compris que peut-être il serait temps que je batte en retraite, là, que je m'en aille. Mais bon, finalement, mon plan a réussi parce que maintenant plus personne veut me casser la gueule vu que j'ai un bras en moins. Alors personne n'ose taper sur un type qui a un bras en moins. Comme quoi l'histoire se finit bien pour une fois, enfin, si on veut. Donc le Talking Karate Blues, c'est Tans Van Zandt en 1968. Et je vous dis à dans 15 jours normalement. Et à dans 3 semaines pour le retour de Tommy Boy, si je calcule bien. Ah merde, putain, c'est pas encore jingle de fin. Là. Il faudrait quand même que je passe le morceau Karate Blues. Là. Voilà, c'est celui-là.
Well, I ain't very big for 21, and it seems like I never could have any good clean fun, 'cause every time I'd go outside, some great big old bully'd come along. He'd hit me in the face, and he'd knock me to the ground, and he'd start to kicking me all around, and that ain't exactly fair, friends. That's wrong. So I got me a paper the other night, and I crawled up on the sofa, and I turned on the light, and I flipped through the pages till I found the classified ads. Said, take karate from Lee Hung Chow, man, make your first appointment now. This course is guaranteed to make you bad. Well, the next day I drove to the address, and by the Japanese design I was real impressed. It looked like a regular house of the rising sun. I walked inside, I was all alone. I had a nervous feeling down in my bones. I was kinda sorry I'd ever even come. Then a giant Jap came through the door. He must have been at least about 7'4", and he looked like he's prone to easy aggravation. He said, Lee Hung Chow, Aki Dung. That's Japanese for fee fi fo fum. I tried to explain my entire situation. He said, number one course, Yankee self-defense, $200.25. I said, what's the 25 cents for? And he said, repairs. I said, repairs to what? And he said, to you. And I thought to myself, man, that won't do. Felt about half inch tall underneath that old slanted stare. Oh, you think he was yellow. I said, I believe I better go check another place. He said, Hasso, Yankee don't like my race. I said, now there's a mistake, man. And that's true. Well, I've been for you Japanese all along. You Japanese just can't do no wrong. And I thought you got a mighty dirty deal in World War II. Well, he grabbed me by the hand and he gave a heave. And I figured there's a pretty good time to leave. Before he had a chance to do me any definite harm. But my plan worked out in the end, you see. Now, no bully's gonna pick on me. Who's gonna hit a fellow with just one arm?
Come back. I want him to come back.